Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner. La gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance, merci.
Oui, chers auditeurs, par avance, merci à tous ceux qui pourront nous aider, parce qu'effectivement, et j'insiste vraiment, cette période de l'été est une période difficile pour nous, parce que les gens partent en vacances et oublient leur radio. Mais nous, nous continuons d'émettre 24 heures sur 24 et les frais existent et nous devons continuer à vivre parce que sinon, ça veut dire qu'en septembre, littéralement, vous partez avec une radio et en septembre, vous rentrez, il n'y a plus de radio. Parce que nous ne sommes pas une administration publique, on ne peut pas avoir de déficit, s'il n'y a plus d'argent, on n'existe plus, c'est ainsi. Ça fait 39 ans que ça dure, j'aimerais quand même que ça dure... au moins jusqu'à mon départ, ce serait bien. Ce serait vexant d'être celui qui ferme le micro. Non, sérieusement, on a réellement besoin de vous. Et nous avons tout simplement besoin, d'ailleurs, de 250 000 euros pour traverser l'été, ce qui couvre donc les frais des antennes hertziennes, parce que ça a un coût important. Nous avons des collaborateurs, des salariés, nous avons tout un tas de gens aussi qui se déplacent, qui vont sur le terrain pour vous apporter de bonnes informations. Et puis on prépare évidemment... la campagne présidentielle de 2027 avec un dispositif que nous espérons un peu structuré et intéressant pour vous. Nous préparons la rentrée de ligne droite et donc tout cela évidemment a un coût et on va en profiter pour remercier les auditeurs qui en sont conscients comme cette auditrice de Grete, alors j'espère que je ne prononce pas mal, Grete Armainvilliers en Seine-et-Marne qui envoie 30 euros. Elle nous dit, voici un petit complément de ma cotisation pour vous aider à passer l'été. J'aime toujours vos émissions et vos rediffusions qui nous remettent dans le contexte d'une époque de quelques mois ou quelques années en arrière. J'apprécie également vos émissions du lundi matin sur la langue française et en ce qui me concerne, je les aimerais plus nombreuses. Avec mes remerciements pour toutes les informations que vous nous apportez. Chère madame, un immense merci et nous essaierons d'être à la hauteur de vos attentes.
Et un auditeur de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne envoie 100 euros. Comme promis dans mon message, lu par le Président lors du Restons Courtois de lundi, je vous adresse un complément de 100 euros pour vous aider modestement durant l'été qui n'est pas une période des plus faciles. Je vous renouvelle mes compliments pour la qualité de vos intervenants et la multiplicité des thèmes abordés avec intelligence. Votre sincérité parvient à me convaincre, même si je ne suis pas toujours d'accord, bravo.
Eh bien, cher monsieur, merci. Et 100 euros, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout modeste, c'est vraiment précieux. Et si 100 auditeurs... faisait l'effort de donner, encore une fois, ne serait-ce qu'un seul euro, un seul, cela nous aiderait grandement. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le petit message publicitaire, si je puis dire. Mais 1,5 million de personnes nous écoutent chaque semaine et il y en a moins de 20 000 qui donnent. Si seulement 100 000 d'entre vous qui ne donnaient jamais acceptiez de vous délester d'un seul euro, vous nous changeriez l'existence et on pourrait beaucoup mieux travailler pour votre propre service. Et on termine avec cette auditrice de Paris, dans le 11e arrondissement, qui envoie 70 euros, et qui nous dit « Je suis très âgée et vous remercie pour tout le bien que vous me procurez. C'est un bonheur d'avoir cette radio. Nous sommes une grande famille. Un seul problème, presque tout le monde parle beaucoup trop vite. C'est très fatigant. » Eh bien, chère madame, déjà, un immense merci pour votre soutien. Et puis, nous allons essayer d'abord de ne pas blésimarder, c'est-à-dire de se parler les uns sur les autres, mais nous allons aussi essayer de parler moins vite, même si parfois, dans le feu de l'action, évidemment, on s'emporte, et surtout les plus jeunes. Sales jeunes. je ne recule devant aucune démagogie. On en revient à notre rendez-vous de la réinformation, les amis, avec la marche, là c'est un sujet malheureusement bien triste, la marche blanche pour Louis à Narbonne. Donc on a vu plusieurs milliers de personnes, dont Marion Maréchal, dont Éric Zemmour, dont le sénateur RN Mathias Renault, qui se sont réunis dimanche à Narbonne donc pour rendre hommage à Louis, assassiné par 5 racailles le 19 juin. Et le garçon donc, avait été placé en foyer par l'aide sociale à l'enfance. Et il avait été attiré dans un guet-apens et battu à mort par d'autres jeunes, donc, dont certains venaient également de l'aide sociale à l'enfance. Et après le 28 juin déjà à Narbonne et puis à Carcassonne le samedi à l'appel de son père, Il s'agissait donc de la troisième manifestation à la mémoire de Louis. Cette fois-ci, elle était organisée par sa mère. Et la mère donc a justement réclamé une évolution de la justice des mineurs. La question, c'est est-ce que cela sera suffisant pour endiguer ces phénomènes de violence? Et je me tourne vers nos chroniqueurs. Donc voilà, qu'avez-vous pensé de cette manifestation à Narbonne pour Louis?
Ce qui est cher, je ne sais pas vous,
Arthur
mais,
de Vatrigan.
Si vous regardez dans les faits tragiques des dernières années, il y a une nouveauté, c'est que les femmes et les mères montent au créneau et montent violemment, sans tortiller ni de la bouche ni du clavier. On peut parler de la femme du chauffeur à Bayonne qui s'est fait massacrer.
Oui.
On peut parler de la mère d'Elias et on peut parler de la mère de Louis. Elles prennent la parole et elles lâchent pas. Elles continuent sur la durée et elles utilisent des mots forts et avec une vraie accusation à chaque fois et de l'État et des hommes politiques. Et c'est quand même une nouveauté. Alors le drame, c'est qu'il y en a de plus en plus. Donc j'espère que ça va s'arrêter un jour, mais je me dis si les choses changent, et si quelques politiques ont un jour le courage de prendre prendre le sujet à bras le corps, mais très sérieusement, elles n'y seront pas pour rien. Parce qu'à chaque fois, je suis surpris par la force de leurs propos, et je trouve qu'elles ont une parole assez performative. On a envie de les suivre derrière quand elles parlent. Déjà bon, parce qu'on est triste, évidemment, mais aussi parce qu'on sent qu'il y a une colère, mais une colère qui est juste, comme dirait Ségolène Royal, mais qui est surtout, elle veut vraiment faire changer les choses, quoi. C'est en disant, je veux pas qu'en tant que mère, en tant que femme, je veux pas qu'une autre femme ou une autre mère subisse ce que j'ai subi. Et donc c'est à chaque fois ça me marque, je trouve que c'est assez fort. Après bon, malheureusement les marches blanches commencent à fatiguer un peu des marches blanches. Ouais.
Cela dit, voilà, Richard de Sèze. C'est effectivement cette mère de famille qui déclare c'est pas le moment du pardon, c'est le moment de la guerre. On est assez surpris. On est passé de vous n'aurez pas ma haine,
mieux, hein.
Ma haine et je ne ferai pas le jeu des extrêmes à l'État est un incapable et il faut qu'il rende des comptes. Avec d'ailleurs un État qui s'exonère lui-même en permanence. Gérald Darmanin, évidemment, n'a aucune envie de démissionner à un quelconque moment et il considère que ce sont forcément les juges qui sont responsables, ce qui est en partie vrai. Les juges qui eux-mêmes expliquent qu'ils ne sont évidemment pas responsables.
En même temps, hein, donc il sait ce qu'il quoi il parle.
Oui.
Puis il était ministre de l'Intérieur aussi.
Il a été aux commandes de tout ce qui permettrait en fait d'éviter que ça n'arrive.
Ouais. Alexis
donne presque
Poulain.
Envie de défendre la procureure
de Périgueux.
Doche,
oui.
En fait, vraiment, alors en plus, sous celle qui était au, il me semble, sans me tromper, il me semble que celle qui était aux affaires sur cette affaire était la, je sais pas qu'on appelle ça, la substitut du procureur et pas la procureure en question. Donc, quand on sait comment fonctionne la justice, quand on dit qu'il y a peu de moyens, c'est vrai. Et donc, généralement, on n'est pas forcément au courant de tout. Mais la manière dont ils chargent. La procureure me donnait presque envie de la défendre et Dieu sait si elle a prouvé. Alors,
j'avoue que là, j'ai pas votre.
Quelques mois avant, une détestation qui était de ma part, qui était assez saine et juste.
Rappelons quand même que c'est une dame qui, au lieu de s'occuper de ce genre de dossier de criminels sexuels en puissance, en tout cas solidement accusé,
et avéré par rapport à
et avéré, oui, maintenant, a préféré s'en prendre à des pauvres agriculteurs qui manifestaient contre le Mercosur. Alexis Poulain, que vous inspire cette manifestation de Narbonne?
Ben justement, je crois que sur la parole publique des familles, on voit qu'il y a un petit changement. Alors, on a toujours eu ce truc, hein, pas de récupération. Je pense qu'il y a des cellules de crise aussi qui sont là pour entourer les familles, pour éviter qu'elles ne disent ce qu'elles pensent, d'une certaine façon. Je crois que ça commence à changer beaucoup du fait de la répétition, malheureusement, de ces drames et aussi d'une certaine lassitude dans la population. Parce que finalement, qui récupère ces événements les uns après les autres, c'est le pouvoir en place qui essaye de faire croire que tout va très bien, Madame la Marquise, que ce sont des faits divers et qu'on va immédiatement s'en occuper. On est le 6 juillet. Je rappelle que Gérald Darmanin avait promis 70 000 dossiers laissés en souffrance en matière de pédocriminalité qui seraient traités d'ici le 14 juillet. Je ne vois pas comment on peut croire une seconde à ça. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait cette libération de la parole.
Oui. Est-ce que vous partagez cette idée que, comme elle le demande, il faudrait une évolution de la justice des mineurs? En tout cas, est-ce que c'est suffisant? Oui.
Bien sûr, d'une part, parce que cette justice des mineurs est devenue une excuse utilisée et par les avocats et par les truands eux-mêmes pour criminaliser la jeunesse. Autrement dit, avant, c'était l'exception qui faisait en sorte que le jeune se retrouvait avoir eu un comportement d'adulte et on se disait, ben, très bien, tenons compte du fait qu'il n'est pas fini. Et là, maintenant, non, pas du tout. On les recrute précisément parce qu'on sait qu'ils sont impunis.
Absolument.
Et qu'ils jouissent d'une impunité.
Oui, alors donc, on voit ça dans la criminalité rome, notamment, où des voyous de clans roms font exprès de recruter et d'envoyer, en fait, enfin de contraindre, souvent ils sont contraints, des enfants, des jeunes adolescents, dévaliser vos poches dans les couloirs du métro, du RER, et faire de la mendicité agressive.
Mais aussi dans le trafic de drogue.
Mais aussi dans le trafic de drogue, avec ce qu'on appelle les choufeurs, donc les guetteurs, en bon français, chouf étant guetteur en arabe, sans aucune, évidemment, connotation, hein. J'imagine que c'est parfaitement décorrélé, mais en tout cas c'est vrai qu'on met ces mineurs parce qu'on sait très bien que s'ils se font attraper, eh bien ils seront relâchés dans la journée. Mais néanmoins, je me demande quand même...
Maintenant c'est même plus des mineurs. Hein. C'est
ah bon
là, non, maintenant ce qu'ils font, c'est là où on voit qu'ils sont forts, c'est qu'ils mettent des sans-papiers. Et à tel point qu'à Marseille, ils ont des réseaux où ils font venir des sans-papiers de toute la France. C'est-à-dire qu'en fait il y a des chasseurs de têtes de sans-papiers, et en fonction des besoins qu'ils ont dans les lieux de narcotrafic, ils dépêchent des gens pour les recruter des sans-papiers. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à Marseille un sans-papier qui vient de Lille qui fait le chouf. Parce que le sans-papier risque encore moins que le mineur.
Oui, puisque lui, quasiment, il est
parce que, de toute façon,
vierge
il papier,
de toute identité. Oui, non, ça, c'est assez impressionnant. Mais justement, en fait, Arthur de Vatrigan, vous nous amenez peut-être au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette question de l'ensauvagement, mais de l'impunité, et, pardon d'en revenir toujours à ça, mais aussi de l'immigration, c'est-à-dire qu'on est quand même, les gens qui ont assassiné Louis, alors je crois qu'il y en avait deux qui étaient des Français, ou en tout cas des Français de souche, trois autres étaient d'origine immigrée.
L'ASE, le problème, c'est que...
Oui, c'est l'ASE le problème, c'est
pas
l'immigration.
L'ASE, on a tous enquêté sur l'ASE, on a tous eu des témoignages de l'ASE, des témoignages de directeurs qui nous expliquaient quand que leurs éducateurs ou leurs pions, parce qu'on n'appelle pas ça des éducateurs, quand ils voyaient une gamine qui partait, qui revenait trois jours plus tard à moitié à poil, avec le bras rempli de picousses de seringues et des yeux, un œil au beurre noir, ils mettaient sur l'affiche « fugue ». Voilà, on sait comment ça se passe, on sait comment ça fonctionne, et il y a eu bout de nombreux rapports, dont on apprend un rapport sénatorial. Vous rappelez-vous la dernière fois comment ça s'est fini ? C'est fini par la création d'un comité scientifique. Voilà. Il y a un rapport sénatorial qui établit qu'il y a 20 000 gamins qui sont prostitués dans un système. Réponse, on crée un comité scientifique.
Ouais. Le système reste en place et aucun des responsables départementaux ou régionaux n'est traîné en justice.
Alors, l'ASE, donc, peut-être. Mais alors, pardon, hein, mais vous ne m'enlèverez pas de la tête ma petite
sur
obsession.
Le trafic de drogue, oui.
Non, non, tout. Là, en fait, moi, je suis quand même choqué par le fait que depuis Malik Houssekin, qui a été tué en 1986, cette mort où il a été tué, il a été pris dans le cadre d'une manifestation et il a été tué par des policiers qui ont sans doute manifestement abusé de leur pouvoir, et en plus, le pauvre garçon...
C'était pas le bon.
C'était vraiment pas le bon, c'est-à-dire qu'il était en train de se convertir, je crois même qu'il voulait rentrer dans les ordres, enfin, il était vraiment dans une logique, pour le coup, lui, d'assimilation à la nation, et il aurait sans doute fait un bon français, et malheureusement, il est mort. Mais sa mort a été totalement instrumentalisée par la gauche et l'extrême-gauche, au point d'en faire un phénomène qui a empêché absolument toute... répression ensuite judiciaire et qui a débouché sur ce laisser-aller phénoménal, mais pour un Malik Houssekin tué en 86, la question c'est combien est-ce qu'il va falloir de Lola, de Philippine, de Thomas, de Louis pour que enfin l'opinion publique française et les décideurs qui dirigent notre pays se décident à s'élever avec la même force contre les meurtres des petits Français, parce que tous les gens qui meurent récemment, enfin ces dernières années, mais c'est une litanie de prénoms français. Je suis désolé, de Lola à Louis, c'est vraiment toujours les mêmes. Et le jour, moi j'attends de voir le jour, et je ne le souhaite pas, parce qu'évidemment on ne souhaite la mort de personne, mais si on avait la mort d'un petit enfant immigré, je vous garantis, j'en suis sûr et certain, que la manifestation serait monstrueuse, et on appellerait à lutter contre le racisme, alors que là, tant que ce sont des petits blancs qui se font massacrer, qui finissent découpés dans des valises ou qui finissent assassinés et laissés pour mort sur un chantier. Tout le monde s'en fout pour une raison très simple, c'est que les victimes sont des Blancs et que les coupables, dans la grande majorité, pas toujours, mais dans la grande majorité, sont des gens d'origine immigrée et que le fait, ça me rappelle les viols de Cologne, c'est-à-dire que le fait d'admettre que des criminels puissent être d'origine immigrée, c'est un peu... ça entre en contradiction avec le discours officiel et donc on préfère détourner le regard. Et je pense qu'il faut vraiment arrêter ce double standard et arrêter de s'indigner quand un immigré illégal se casse un ongle et détourner la tête quand c'est un autre immigré illégal éventuellement, ou même légal d'ailleurs, qui viole ou qui tue des Français innocents. Il y en a vraiment marre en fait. Et on se finit par se dire que tuer un Français blanc aujourd'hui en France, c'est une circonstance atténuante aux yeux de la gauche bien-pensante et du système qui l'entoure.
Voilà, on parlait de Malik Oussekine, mais on a juste à revenir à Naël, hein.
Oui. Putain, je suis parti trop tôt.
Non, mais voilà, c'est le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a des nouveaux.
Attends, sauf que Naël, c'était vraiment un voyou en plus, alors que Malik Oussekine ne l'était pas.
Oui, en plus, non, mais ça, vous avez raison, mais on part de dire ce qui a créé le début de toute la logique antiraciste gauchiste, c'est en effet la mort d'un innocent. Et au nom de ça, depuis, il crée des coupables martyrs pour continuer à faire vivre ce mythe-là. Mais juste quand on pense à Naël, regardez où est le flic. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas la crainte du politique. Il y a aussi la crainte du flic de se retrouver devant une cour d'assises.
Ah ben ça, c'est sûr et certain. Oui, oui. Moi, j'ai toujours en tête ce scandale, cette histoire mais ahurissante d'une voiture de police qui se retrouve attaquée au cocktail Molotov. La voiture crame, les policiers sortent de la voiture et n'osent même pas tirer à l'arme à feu alors qu'ils sont en train de se faire assiéger et on veut les griller dans leur voiture. Et ils n'osent même pas tirer contre les gens qui veulent leur mort.
Le sang-froid du flic sur les images.
Oui, oui, oui.
Impressionnant.
Oui, là j'avoue.
Vraiment impressionnant.
Mais voilà, donc, et là en plus, j'en reviens à cette justice des mineurs, on voit ce garçon-là, Hamza Ladouane, qui se balade dans leur... Non, mais c'est un sujet de société, ce garçon. Je ne sais pas ce que vous en pensez de lui.
Oui, alors je dois dire qu'entre entre l'ASE qui abandonne Louis, les policiers d'ailleurs de la ville de Narbonne qui ont abandonné Louis, le juge qui a décidé de placer Louis à l'ASE, sachant que la France place 5 fois plus d'enfants que l'Italie, et au prétexte que l'État allait bien s'occuper de lui. Voilà, donc on a vu effectivement à quel point l'État s'occupe de lui. Le fait que le jeune Hamza n'ait pas reçu la paire de claques dont il avait besoin quand il était petit, bon, et que les gens du canal Saint-Martin se fassent arroser, j'avoue que j'ai du mal
Pas seulement arroser, non, c'est un garçon dangereux. Hein.
Le canal Saint-Martin, regardez juste la carte électorale, et dites, oui. Comme on dit en Auvergne, chais.
Ça veut dire quoi?
Bien fait pour votre gueule.
Ah oui.
Fallait bien voter.
Oui, non mais ça d'accord.
Ah si, non mais pardon, moi c'est un plaisir jouissif de voir tous ces bobos en vélo se faire arroser par un petit connard d'obèse qui leur balance leur pistolet à eau, mais aussi des pancartes et des choses qui traînent. Oui. Mais bien fait pour votre gueule, les mecs. Vous vendez du vivre ensemble en permanence. Là, vous allez le vivre. Non, non,
ensemble.
Pas dans 5 ans.
Oui, mais sauf que, d'accord sur le fait que c'est rigolo de voir les bobos souffrir de ce qu'ils ont provoqué. Néanmoins, l'existence même de ce gamin, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire un petit obèse, on dirait Eric Cartman dans la série South Park, tient tête à un État. C'est-à-dire que le gouvernement français, la police française, n'est même plus en mesure de se faire respecter par un gamin obèse avec un pistolet à eau.
L'État ne devrait pas aller chercher le gamin, il devrait aller chercher les parents. Foutre le gamin en garde à vue 3 fois, le mec il ressort, il est content,
c'est
la gloire. Et puis vous avez remarqué, dès qu'il fait une garde à vue, il monte d'un grade dans l'intensité.
Je trouve qu'en parler et lui rendre hommage, en fait, ça me...
Oui, mais dans ce cas-là, moi je serais pour qu'on aille chercher les parents.
Mais je crois...
Voilà. Oui. Alexis Poulain.
Il y a la question des parents, effectivement, totalement démissionnaires, et elle n'est pas nouvelle, cette question.
Ou fière.
Ouais,
parce qu'ils ont demandé qu'ils ne soient pas floutés.
Oui, en plus, parce qu'il fait tout ça. Attendez, on est en 2026, si le gamin il fait ça, c'est pour être au million d'abonnés sur TikTok. C'est pas autre chose. Il va être une star, Hamza la star, c'est tout. Il fait ça uniquement pour dire, moi, plus tard, je vais être investisseur ou influenceur. Et c'est ça son truc. Et il a très bien compris comment fonctionne le système. C'est un petit gamin, comme il y en a eu plein, qui faisait chier le monde avec le pistolet à eau, qui fait des incivilités dans le quartier. C'est pas nouveau, sauf que lui, il a pris... la lumière, ça ressemble presque à une opération psy. pour se dire il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On en est vraiment à ce niveau-là, c'est-à-dire pourquoi Hamza a pris autant d'importance ? Parce que si Hamza fait ça, c'est pour devenir une star. Et il a réussi. Regardez, on en parle partout. Il a eu des unes. Il devient l'ennemi public numéro un. Alors que, redescendons, c'est un gosse qui fait chier tout un quartier, mais qui a encore tué personne et qui a juste un pistolet à eau et qui balance des pancartes, des trottinettes, tout ce qu'il veut dans le canal. Et faut voir en plus que ce gosse balance tout et n'importe quoi dans le canal, mais se baigne aussi dans le canal. Donc il y a un écosystème là qui s'est créé. Et je trouve que c'est d'abord et avant tout un message, enfin du moins un signal fort sur... effectivement, la vrille réseau social pour ces gosses qui se voient stars. On avait vu ça aussi, alors sans être star, hein, mais sur les razzias qui se font sur les magasins de chaussures de sport lors d'événements sportifs. Alors, ça se passe sur Snapchat, on se donne rendez-vous et on arrive à 300. Les flics font rien, évidemment. C'est vraiment un autre... système qui se met en place, je trouve. Au-delà, bien sûr, de l'incivilité qui reste un sujet à part entière.
Oui. Alors ça, oui, j'ai jamais pensé effectivement au rôle criminogène du réseau social, mais c'est vrai que
ah
ça
oui.
peut...
Oui,
oui, oui. Bah, si, c'est vrai. Mais ça nous repose quand même le rapport entre Hamza et Louis, c'est quand même et les assassins plutôt de Louis, c'est quand même le fait qu'ils soient tous mineurs et donc protégés par une espèce de système ahurissant et qui... Parce que l'ordonnance des mineurs de 45... Je pense qu'elle est objectivement périmée, ultra périmée. Quoi. Donc,
Il y en a un dans le groupe qui a plus de 16 ans.
Ah, et donc lui est passible.
Plus de 16 ans, ouais, c'est-à-dire que le juge peut l'enlever, ou en tout cas pas prendre en compte. Et c'est déjà arrivé que des jeunes adultes de 16 ans commettent des crimes atroces et que le juge n'enlève pas cette particularité. Donc il y a aussi... Bon, il y a la justice des mineurs qu'il faut, une refonte intégrale, évidemment.
Mais aussi
derrière,
la justice
si vous n'avez pas la justice qui... alors, il faut des places de prison, parce que sinon ça ne sert à rien. Et derrière, des juges qui appliquent le droit, réellement, parce qu'on parle toujours dès qu'il y a un problème de vouloir créer un autre droit. Alors là, pour le coup, sur la justice des mineurs, il faut le faire vraiment, mais j'aimerais bien avoir des garanties avant. On va s'emmerder à faire des débats de 6 mois sur la justice des mineurs, si derrière, il n'y a rien qui est appliqué.
Oui, parce que en fait... Dans cette histoire de justice des mineurs, supprimons l'exception de minorité.
Ouais.
Expliquons que tout le monde, de la naissance jusqu'à 99 ans, est passible des mêmes peines. Les juges continueront à discerner et à individualiser les peines. Et donc, s'ils ont envie que le gamin de 9 ans soit mis en prison, il sera mis en prison. S'ils ont envie qu'il soit mis en centre ouvert, il sera mis en centre ouvert. S'ils ont envie de le condamner à une amende, il sera condamné à une amende. Enfin, lui ou ses représentants légaux. Enfin, donc, autrement dit, il n'y a pas besoin de raffiner, en fait. On voit bien que le système ne fonctionne pas, il suffit d'enlever une loi, c'est d'une simplicité enfantine.
Eh bien écoutez, sur cette simplicité biblique, on va s'arrêter.
Ah ben, votez pour moi.
Voilà, votez de 16. On va passer à un autre sujet qui est un autre procès, donc on reste dans le domaine de la justice. Donc ce mardi 7 juillet aura lieu le procès de Marine Le Pen, donc je rappelle pour ceux qui auraient vécu dans une grotte, qu'elle est jugée dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Et donc nous allons savoir demain, sans doute en fin d'après-midi, si sa condamnation à de la prison assortie d'une peine d'inéligibilité est confirmée en appel, et si cette décision de justice est confirmée, eh bien elle ne pourra pas se présenter, et elle sera donc tenue de soutenir Jordan Bardella, qui sera son dauphin. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous pensez, on ne va peut-être pas vous demander un pronostic, parce que je crois que ça serait un peu absurde, mais comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que cela pourrait changer, notamment, si c'est l'un ou l'autre qui est candidat, par exemple?
Déjà, j'aurais dire, je n'ai pas été surpris, mais souligner en tout cas la grande dignité de Madame Le Pen, parce que j'ai réfléchi aujourd'hui, je me suis dit, si ça avait été Nicolas Sarkozy, si ça avait été Jean-Luc Mélenchon, si ça avait été Emmanuel Macron... je pense que ils auraient, pour leur orgueil ou parce qu'ils se croyaient innocents, auraient flingué le parti avec des déclarations outrancières, en remettant tout en cause. Alors, peut-être à juste titre, mais en tout cas, d'un point de vue communication, d'un point de vue médiatique, ça aurait été politiquement suicidaire pour le parti, ce qu'elle n'a pas fait. Et pourtant, quand on connaît son histoire, je vous invite à relire, il y a Paul Lobachet du Figaro qui a refait tout le récit de Marine Le Pen, c'est en 4 parties, oui. Très intéressant. Quand on voit tout son récit, on se dit, mais avec tout ce qu'elle a vécu, arriver aux portes du pouvoir et un juge qui vous dit non, c'est d'une violence quand même. Voilà. Donc juste sur le côté, voilà, purement personnel, souligner la dignité de Marine Le Pen, parce que je pense que peu d'hommes ou de femmes politiques auraient réagi comme elle. Ensuite, sur le fait en question, il y a quand même deux choses. Il y a un, le fait sur quoi ils sont accusés, c'est quand même d'un grotesque hallucinant, c'est une raffutation de budget. Quoi.
D'ailleurs, voilà. Jean-Luc Mélenchon a été lavé de tout soupçon.
Il a été lavé de tout soupçon, mais en fait, ce qui est fou, c'est que...
Pour à peu près la même affaire.
Quand on regarde dans le détail...
Ainsi que François Bayrou, pardon.
Et que, François Bayrou a été lavé, mais les gens du Modem ont été condamnés parce que François Bayrou, courageusement, a expliqué qu'il n'était pas au courant. Voilà, évidemment, ce que n'a pas fait Marine Le Pen. Parce qu'en effet, si on appelle ça une réaffectation de budget, alors quand on parle de détournement de fonds publics, on pense toujours tout de suite à François Fillon.
Oui.
On s'en met dans les poches.
Ou à la vice-présidente du Parlement européen qui s'était barrée avec des sacs de cash.
Des sacs du Qatar, elle n'est toujours pas jugée, d'ailleurs on attend les résultats. Ce qui n'est pas le cas. Et en plus, si vous regardez, c'est intéressant, sur le délit en question, alors c'est Jean-Ric Schottel qui est l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel qui ne cesse de rappeler quand on lui demande son avis sur le procès de Marine Le Pen. Le texte sur lequel elle est, en tout cas l'article sur lequel Marine Le Pen est condamnée et sera peut-être tuée définitivement politiquement demain, c'est l'article 432-15 du code pénal qui, je cite, punit le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de détourner des fonds publics. Or, dans la loi initiale, à aucun moment un parlementaire ou un assistant parlementaire entre dans cette catégorie. Et c'est en fait, c'est une construction jurisprudentielle, c'est-à-dire que la mode a été lancée avec François Fillon, et c'est à la suite d'une décision de la Cour de cassation en 2018 pour une affaire de sénateur que les juges ont décidé que ça incluait les parlementaires et les assistants parlementaires. Ce qui, à aucun moment, c'est dans la loi initiale. Donc déjà, on est condamné sur une construction jurisprudentielle, ce qui est toujours un peu étonnant. Et ensuite... C'est-à-dire quand vous voyez le résultat qui va être demain, il y a 4 jours, on apprend qu'il y a Jordan Bardella qui est dans la ligne de mire avec des perquisitions.
Y compris chez des anciens prestataires ou des prestataires en Espagne ou en Italie.
Partout. Qu'un juge puisse enquêter et juger des élus, même un président, c'est très bien, on appelle ça un contre-pouvoir, c'est important. Mais lorsque le juge, on a le sentiment que c'est lui qui décide du casting d'une présidentielle ou qui tient la porte du bureau de vote... Ou s'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, avec le bulletin de vote, il vous glisse un petit procès-verbal avec une légende pour vous expliquer pour qui il faut voter ou pas, bah le contre-pouvoir devient un pouvoir et ça devient sacrément embêtant. Parce que là, je ne crois pas que si elle est définitivement condamnée, en tout cas, qu'elle ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle, je ne pense pas que ça va détourner des électeurs du parti. En revanche, ça va détourner encore plus de Français des institutions. Et ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les tenants du système.
Non, en tout cas, si le Rassemblement national se fait éjecter l'élection présidentielle à venir, le président va être élu avec à peu près 7% de la population et avec un score remarquable, et il expliquera que c'est la volonté populaire qui a triomphé.
Et je rappelle aussi quand même, là je mets un petit plan à Marine Le Pen et à d'autres, que sur l'inéligibilité, pour le coup c'est le politique qui a permis au juridique de le faire. Marine Le Pen à l'époque... a voté pour, avait expliqué qu'il fallait évidemment qu'aucun candidat ou une personnalité condamnée puisse se présenter. Et on voit quand même, ce qui est assez effrayant, c'est que le politique a remis beaucoup de pouvoir dans les mains du juge. Alors, les juges ont fait aussi des coups d'État pour en récupérer un peu plus. Mais sur ce sujet-là, si vous regardez, c'est à partir du moment où le politique n'a plus légitimité, il a transféré, ou en tout cas redéfini, les contours de la légitimité. La légitimité, c'est du politique, c'est plus est-ce que le politique est en mesure d'agir sur le cours de la vie des gens, ou est-ce qu'il a suffisamment de courage pour appliquer son programme, ou agir pour le bien commun, comme il est incompétent, lâche ou nul, pour la plupart, et bien la légitimité, c'est la vertu. Et donc, il donne au juge le pouvoir de légitimer telle ou telle personne. Mais j'arrive pas à m'enlever de l'idée que c'est parce qu'ils ont reconnu leur impuissance qu'ils ont donné le pouvoir au juge pour leur filer un tampon de « vous êtes honorable et légitime ».
Oui, enfin, et la vertu, attention, la vertu vue par la gauche, quoi, parce que ça...
Ah oui, bien sûr,
oui.
Parce que, honnêtement, ça m'a fait penser, vous savez, à Le Cornu qui avait annoncé qu'il avait lancé des tests de drogue pour les ministres.
Ah oui.
Bon.
Et au Parlement.
Dans tous les ministères.
Tous les ministères. Bon, on n'a pas eu le résultat, heureusement, imaginez, mais bon, déjà l'avoir dit, c'est complètement con.
Et on ne les aura pas, les résultats.
Et si les gens demandent le résultat et râlent, c'est pas parce que les types sont drogués. Et si limite ils encourageaient Sébastien Lecornu dans son initiative de aller faire des tests à l'hiver, donc qui enlève quand même quelques drogues, notamment celle du chemsex. Mais bon, il y en a qui seront contents. C'est pas parce que ils veulent savoir qui est drogué ou pas, c'est parce que les types sont nuls. Parce que si un politique faisait son boulot, le français, on en a rien à carrer. Ah oui. Que le politique se drogue
qu'il
ou pas.
Se drogue ou pas, oui, 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 ni de sa morale.
Voilà. Le problème, c'est que le politique pêche et paye par son incompétence.
Alexis Poulain, est-ce que vous êtes, quelle est votre impression donc, sur toute cette affaire?
En fait, c'est le serpent de mer de la justice politique en France qui choisit son tempo, qui choisit ses cibles aussi, et qui, je trouve, fait un mal énorme justement à l'image de la justice. Parce qu'on voit très bien que les juges sont politiques, qu'ils font un choix. Quand ils font en pleine campagne tout un foin sur l'affaire Fillon avec sa femme en assistante parlementaire, le costume, etc., il n'y a quasiment rien. Mais ça suffit pour lancer Emmanuel Macron. Et là, alors qu'en 2027, c'est quasiment l'assurance que le camp national gagne ou soit loin devant au second tour, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver un moyen d'empêcher le RN d'avoir une stratégie claire de long terme. Et donc, il faudra, à partir de demain, en fonction du résultat, adapter une stratégie, si c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella. C'est clairement un choix des juges. Et c'est, pour moi, quelque chose d'inacceptable. Ce ne sont pas aux juges de décider qui a le droit de se présenter ou pas. Et qui plus est, dans une affaire qui concerne les assistants parlementaires au Parlement européen. Il ne faut vraiment pas toucher ce truc-là, même avec un bâton. Hein. L'Union européenne, c'est le danger absolu. Et donc, on a vu que François Bayrou a été traité très gentiment, que Jean-Luc Mélenchon également. Demain, on va voir ce qui va se passer, mais j'ai une impression quand même assez mauvaise que les juges feront leur travail de sape. Et c'est un travail politique de sape qui empêche le débat démocratique. Si vous ajoutez à ça les juges de la Cour de justice de l'Union européenne qui font des lois encore plus folles et des arrêts encore plus fous que les nôtres, on est dans un système où les juges ont beaucoup trop de place.
Oui, alors,
dans la question politique.
Vous mettez le doigt sur une de mes marottes qui est de... On a tellement longtemps considéré qu'il fallait séparer les pouvoirs, enfin le principe de séparation des pouvoirs qui nous vient de Montesquieu, mais qui à la base pourrait être bon.
Oui.
Mais on imagine toujours que c'est le politique qui va empiéter sur le judiciaire. Mais
pas
en fait,
tout.
Depuis quelques décennies, on s'aperçoit que c'est rigoureusement le contraire qui se passe. C'est-à-dire que le judiciaire empiète sur le politique.
Depuis l'affaire Urbain, en fait.
Non, avant ça, je pense que toute la construction européenne est une affaire de juges. C'est des lois. Des lois au-dessus du politique. Et on le voit, et c'est des règlements, des directives, etc. Et donc, cette surinflation fait que le pouvoir, il y a eu un coup d'État qui a été fait par les juges, quel qu'il soit. Et on ne peut pas accepter de vivre dans un pays où les juges ont le pouvoir, puisque les juges n'ont même pas ce devoir qu'ont les politiques de passer devant le suffrage. Donc c'est carrément une dictature.
Et ils ne sont pas non plus responsables des décisions qu'ils infligent. C'est-à-dire qu'un politique,
tout.
À la limite, on peut le sanctionner. Il peut se retrouver devant un juge. Tandis que le juge ne se retrouve jamais devant un juge. C'est quand même assez...
Les juges sont jugés par un collège, etc.
Oui.
Ou d'ailleurs, ne jugent quasiment que les magistrats.
Oui.
On nous dit qu'il y a des civils, une partie de ces civils sont des magistrats eux-mêmes, ou d'anciens magistrats, pardon. Et donc, les plus non-magistrats sont les plus rares, et avec des décisions absolument fabuleuses.
Et des peines dérisoires.
Des gens qui ont
Bien
enterré
sûr.
Des dossiers, des gens qui ont jeté des dossiers, des gens qui n'ont jugé qu'un tiers des affaires qui leur étaient confiées, et à qui on dit vous êtes rétrogradé d'un échelon, vous payez une amende de 1000 euros. En fait,
oui, alors qu'ils ont brisé des
vies. Et on nous explique, non, mais la magistrature est très sévère. Non, pas du tout.
Alors, comment est-ce que vous imaginez surtout, comment est-ce que vous... Sauf si moi je suis paranoïaque, mais je le suis peut-être un peu, mais même les paranoïaques ont des ennemis, comme disait l'autre. Entre le prix tanné, ce qu'on voit avec Anne Coffinier tout à l'heure, où on voit noir sur blanc que les élèves catholiques des écoles privées hors contrat seront systématiquement bannis des préparations, des classes préparatoires militaires, la volonté de contrôler les réseaux sociaux qui se met en place pour notre bien, évidemment, et pour empêcher les ingérences étrangères. Les tentations, comme Éric Coquerel qui veut changer le droit pour empêcher les associations de droite de continuer à être financées par les donateurs qui ont choisi de leur donner plutôt que de payer leurs impôts pour financer je ne sais quelle cause absurde. La destruction de, c'est un peu vieux maintenant, mais la suppression de C8, maintenant CNews qui est dans le, oui. dans le viseur, les perquisitions quand même impressionnantes qui se déroulent dans toute l'Europe contre le RN.
Pas contre le groupe Identité Démocratie.
Identité Démocratie dont le RN fait partie, oui. Mais voilà, on sait bien que le temps judiciaire n'est pas le temps politique. Mais
il y a quand même un timing.
Voilà. S'il y a un nombre de coïncidences,
le hasard du calendrier judiciaire ferait baver beaucoup de directeurs de campagne.
Voilà. Donc, est-ce que il faut arrêter d'avoir confiance dans la justice de notre pays et voilà. Et comment est-ce que vous interprétez ça? Est-ce que vous pensez que tout cela est concerté? Et
non.
C'est sans doute pas concerté par une personne, mais on a l'impression, enfin c'est mon impression, qu'il y a un système qui fonctionne de manière horizontale. Je donne mon analyse, comme ça ensuite vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais au moins je l'aurai dit. Mais un système vraiment horizontal où des gens prennent chacun dans leur coin la décision qui leur semble juste et nécessaire et appropriée pour sauver la démocratie, les droits de l'homme, et etc. Et leur cul sur la commode aussi, parce que ça c'est important. L'idée que ces gens, c'est ce que disait Anne Coffinier tout à l'heure, ont échoué depuis 50 ans, mais ne veulent surtout pas lâcher la place parce que c'est quand même bien confortable, j'y crois beaucoup.
Oui.
Peut-être encore plus qu'au complot. Mais néanmoins, voilà, ce système horizontal n'a pas besoin de décision verticale et c'est naturellement et seul ce qu'il doit faire pour torpiller la menace qui monte. Encore une fois, voilà, dites-moi si
Je pense que le corps des magistrats, sociologiquement, comme disait Arthur, est très homogène. Et c'est la même éducation depuis les années 60.
Homogène, c'est synonyme de gauche, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord.
Ils sont homogènes et de gauche, voilà. Mais ils sont homogènes, majoritairement de gauche, de plus en plus féminins, très sensibles à toutes les causes sociétales, voilà. Et avec un pouvoir qui, de toute façon, depuis quelques dizaines d'années, désigne le camp national comme étant l'ennemi de la démocratie. Ces gens-là baignent depuis le berceau dans une atmosphère où lutter contre le Rassemblement national, qui d'ailleurs est l'un des mantras d'Emmanuel Macron, fait partie de la manière d'être intelligemment démocrate. Oui, il y a ce côté horizontal, mais il y a aussi le calendrier, il y a aussi le choix des juges, il y a aussi la manière dont la justice organise le procès en nommant tel ou tel pour instruire, en nommant tel ou tel pour présider et en décidant que telle affaire, on l'a vu avec 1100 affaires, hélas, on aurait aimé que Liana soit sauvée parce qu'on aurait décidé d'enquêter un peu plus rapidement sur Barella. Et ben voilà, c'est la justice qui décide effectivement de son calendrier. Là, il n'y avait pas de délai qui justifia que Marine Le Pen soit jugée sur ce temps-là dont le jugement arrive demain.
Si, pour eux, si.
Ben non.
Parce que, mais non, mais je dis enfin, pas
le plus caricatural, c'était encore François Fillon.
Il n'y a pas de concertation entre un ministre, un président, un magistrat, un vice-président de l'Union Européenne, un journaliste de France Inter au hasard. Non, mais comme sociologiquement, ils ont tous été globalement élevés depuis le bac à sable jusqu'aux grandes écoles au même endroit et qu'ils pensent globalement tous la même chose, bah, naturellement, la frontière du bien et du mal, ils la fixent au même endroit.
Non mais on est d'accord, bon. C'est ce que je disais. Mais cela et dit, le fait de décider du moment...
À l'intérieur, chacune des corpos, bah, évidemment, comme tout bon stratège, dès qu'ils ont une mission, pour eux, ils ont une mission, c'est les Torquemada, que ce soit en politique ou en justice ou dans la presse, les mecs se prennent pour les Torquemada. Ils disent comment on va éliminer le mal. Bon, bah, sachant que le mal va arriver au pouvoir, on va le faire avant. C'est tout. Oui, c'est logique, d'accord. De leur point de vue, c'est complètement logique.
Mais oui, donc ils ont fait exprès de choisir ce calendrier-là. C'était ça la question du président Bouffon.
Ah non, mais je pensais que c'était plus large. C'est est-ce que, en gros, de l'extrême centre qui contrôle le système aujourd'hui? Parce qu'il y a l'extrême droite s'ils veulent, il y a l'extrême gauche si on veut, il y a l'extrême centre, comme tout le monde constate. Bon, l'extrême centre tient le pouvoir, tient les strates de pouvoir. Oui. Bon, ils se concertent pas tous ensemble.
Et s'y ancre d'ailleurs méthodiquement ces dernières semaines.
Et puis
semaines.
Il place, on le voit Macron qui place tous les gens au Conseil constitutionnel comme il faut. Quoi. Tous les contre-pouvoirs, quoi, tous les pouvoirs de l'État profond, on place des gens. Mais il n'y a pas de grande concertation entre tous ces gens. Mais en revanche, dans chaque domaine, évidemment, comme tout type qui doit faire une campagne ou qui doit mener une croisade, bah, ils se concertent un minimum et ils disent voilà ce qu'il faudrait faire pour que ça nous arrange ou pour éliminer le mal. Je pense sincèrement qu'ils ont une vraie peur de la plèbe, vraiment. Ils pensent vraiment qu'ils vont finir renversés et que ça va être affreux.
Ouais.
Limite une tête au bout d'un
Non, ça c'est les filles. Pardon.
Non, c'est ceux qui mettent. Oui, mais ils ont une vraie peur panique de la plèbe. Hein, c'est vrai. On regarde sociologiquement, c'est quand même que de la haute bourgeoisie.
Bien sûr.
Et ils ont un mépris pour le petit peuple et une peur. Ça va ensemble. Ils ont une vraie peur. Regarde, ça m'a fait penser. J'ai regardé le merveilleux meeting d'Edouard Philippe hier, qui est très très instructif et qui explique qu'on va prendre le pouvoir et nous sommes. On va préparer une vraie alternance. Et puis on regarde le bilan d'Edouard Philippe. En dehors, j'enlève Fessenheim parce que le nucléaire, ça fait aucun dommage pour la France, comme chacun sait. J'enlève Notre-Dame-des-Landes qu'il a abandonné parce que l'État qui cède face à des indices, ça ne change rien. En revanche, Edouard Philippe, c'est les Gilets jaunes, donc le traitement avec un mépris énorme, notamment lors des manifestations, et plus de 80 km/h, l'État qui sait évidemment mieux qu'un paysan ou qu'un type qui habite en zone rurale, à combien il faut rouler sur les nationales ou les départementales. Bon, et ben, il incarne parfaitement ça, c'est-à-dire que ces gens-là pensent sincèrement qu'ils pensent mieux que la plèbe, sauf qu'ils voient que la plèbe conteste leur monopole, donc ça les angoisse, ouais. Et donc ils deviennent de plus violents et de plus en plus radicaux.
Alexis Poulain, comment est-ce que vous voyez, vous, cette crispation, justement, du système ?
Bah, je pense que le système, c'est très vrai, il y a une endogamie telle qu'il n'y a pas besoin de complot, en fait. C'est un consensus, tout le monde est d'accord, tout le monde a une certaine idée du bien, de la raison, du progrès, et tout le reste, c'est des extrêmes. Et ce système, il est totalement arrivé à son degré ultime de pourrissement, parce qu'il est rejeté par les populations. Tous les peuples européens, aujourd'hui, attendent des réponses de partis dits populistes et veulent surtout un retour à de la politique, c'est-à-dire arrêter le règne des juges et des technos. Or, eux veulent conserver le pouvoir. Le meeting d'Edouard Philippe hier, c'est comme Glucksmann, c'est comme... Je ne sais plus les noms, ils sont tellement nombreux. On ouvre des portes ouvertes, on sort des énormes banalités et les gens applaudissent. Et surtout, on n'est pas comptable d'un bilan, puisque le Parti unique, je rappelle, est au pouvoir depuis de nombreuses années. Et ces gens-là changent à loisir d'un parti à un autre, d'une mouvance à un autre, pour être à peu près toujours payés par l'impôt des Français à donner des leçons et à ne rien faire. Ce système-là, il devient dangereux. Il se radicalise effectivement par la censure, notamment censure politique, censure de la parole publique. Et là où ça devient vraiment dangereux et où on voit le changement de régime du fait de ce parti unique, c'est l'interdiction de parti. Au Parlement européen, encore lui, on veut interdire le parti créé par l'AFD. On voit les soucis qu'a l'AFD en Allemagne. C'est vraiment une volonté de changer de régime. On n'est pas déjà dans une démocratie très vivace. On rentre dans autre chose, avec du technocontrôle, avec un contrôle politique de ce parti, avec le délit d'opinion aussi, qui revient de manière catastrophique et qui est fait maintenant... pour quasiment rien, un mot qui était anodin autrefois devient un discours de haine. Ça, c'est inacceptable. Mais encore une fois, ce consensus fait que les politiques se regardent les chaussures et personne ne dénonce ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un changement de régime.
Alors justement, ce régime, je vous donne une information qui date d'aujourd'hui et qui confirme un peu ce que font nos centristes radicalisés, pour paraphraser Mathieu Bock-Côté. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, donc, se dit aujourd'hui favorable à l'interdiction des sondages d'opinion qui pourraient manipuler les élections. Alors, c'est quand même impressionnant. Non, l'air de rien. Ce sont des gens qui condamnent tous les jours les régimes dits illibéraux. Et là, on est quand même dans le contrôle des réseaux sociaux, dans l'interdiction d'un parti, dans la judiciarisation de la politique et dans l'interdiction des sondages d'opinion. Enfin, ça commence à faire énorme pour un pays qui défend la démocratie, la liberté, les droits de l'homme.
Forcément, à 3%, vous voulez interdire les sondages.
Parce que c'est vexant.
C'est que la proportionnelle, c'est que les losers qui la demandent, ou ceux qui veulent interdire les sondages, c'est ceux qui seront sous 5%.
Mais vous ne trouvez pas ça inquiétant ?
Venant d'Olivier Faure, comme... tout dès qu'il ouvre la bouche, ça m'inquiète et ça me fait rire en même temps. Donc, pas plus qu'hier et pas plus que demain.
Richard de Sèze, les sondages, vous êtes pour ou contre ?
On va
faire un sondage.
Bien sûr, les sondages sont intéressants, et surtout quand ils ne sont pas d'accord entre eux, et surtout quand les questions ne sont pas posées de la même manière, et ça donne un état de l'opinion. À côté de ça, voilà, un sondage n'a jamais fait une élection. Je voudrais quand même, puisqu'on parle de sondage et qu'il nous reste à peine de temps, les électeurs du Rassemblement National ont décidé en fait, que quelle que soit l'issue du process n'était pas intéressant. Alors, ça, les autres électeurs, je ne sais pas, mais les électeurs du Rassemblement National décident que que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, de toute façon, ils voteront pour les candidats du Rassemblement National.
Et c'était mon ultime question. Est-ce que, selon vous, le meilleur candidat, finalement, serait Marine Le Pen ou Jordan Bardella, en quelques secondes ?
Marine Le Pen.
Marine Le Pen.
Par l'expérience, par... parce qu'elle est le cuir tanné, parce que c'est une Le Pen, et que ça serait quand même intéressant de voir comment le parti Rassemblement National, qui est quand même la suite du Front National, va vivre sans une Le Pen à la tête. Ce sera une grande première. Par facilité, je dirais Marine Le Pen.
Alexis Poulain, en quelques secondes.
Marine Le Pen aussi, parce que voilà, elle est aguerrie à une campagne présidentielle, qu'elle a l'expérience et qu'elle est beaucoup plus connue, même si Jordan Bardella peut être connu par les plus jeunes ou sur TikTok, c'est pas du tout la même surface en termes électoral.
Richard de Seize.
J'irais Marine Le Pen, en gros, parce qu'elle l'a gagné quand même.
Oui.
Voilà.
La méritocratie, vous n'irez jamais au prix tanné, mon pauvre.
Mais voilà quelqu'un qui a été forcé de rentrer en politique quand sa maison a été plastiquée, alors qu'elle n'avait même pas 10 ans. Donc voilà, on l'a jetée dans la politique.
Oui.
Voilà. Elle s'est fait vomir par la bourgeoisie. Voilà, elle dirige le plus grand parti de France. Et là, trois jugeaillons voudraient l'empêcher de concourir à l'élection.
Alors, vous m'inquiétez, parce que pour tout dire, je me disais que si Bardella est le premier dans les sondages, normalement, les juges devraient permettre à Marine Le Pen de concourir pour nuire un peu au Rassemblement
mais
National.
Mais ils connaissent la marge d'erreur, les juges.
Mais voilà, vivement qu'on interdise les sondages.
Bah oui.
Alors, sur ces propos, chers amis, notre Restons Courtois s'achève. Vous retrouvez demain Richard de Seize, mercredi Arthur de Vatrigan. Marc Hainaut, et puis il y aura sûrement une rediffusion de Marc Baudrier le vendredi. Ah non, le vendredi, retrouvez-nous tous en direct. On sera tous là pour fêter un événement. Voilà. Merci à tous et à bientôt.
Ça suffit maintenant.